Puis on se demande comment ces philosophes d'antiquité avaient des intuitions aussi énormes. Parce qu'en fin de compte, c'est très tardivement qu'on a découvert qu'effectivement les particules de l'existence de l'être du monde, c'est des atomes. Okay? Même s'ils n'en parlent pas avec le même vocabulaire, c'est ça qui parle. Alors oui, c'est un problème. Alors les atomes pleuvent. Là, ici, il y a une image poétique de grande beauté. Vous voyez l'éternité, l'espace éternel, vide et obscur. Mais ça pleut, des atomes. Et puis on ne sait pas comment nous dit Épicure, avec un petit sourire en coin, ça voit dans son texte, il y a un atome qui a déclivé. On appelle ça en grec le clinamen. Un atome qui a dévié, un voyou, dévoyé. Okay? Et alors, comme je l'ai dit, il y a des atomes crochus, des atomes mixtes. Si vous avez fait un petit peu de physique atomique, vous savez que ça veut dire des atomes mixtes, des atomes crochus, dans le vocabulaire d'Épicure. Ça dépend du nombre de neutrons. Et alors, un atome crochu qui a accroché un atome crochu, et puis ça commence à s'organiser comme ça. Par hasard. Eh oui, par hasard. Et en fin de compte, de ces combinaisons, l'homme est mort. Et la moisissure. Et alors, cette philosophie d'Épicure est une philosophie tragique. On est devant l'impersonnel. Et alors, on a reçu toute une morale particulière, qu'on appelle la morale épicurienne, dans le sens noble. Ne prenez pas l'épicurien jouisseur. Ça, c'est une erreur dans l'histoire de la philosophie. C'est une histoire philosophique qui s'appelle le sirénaïsme, mais ne confondez pas. Okay? Et c'est pourquoi, quand les rabbins du Talmud veulent parler d'une mentalité qui refuse ce dont nous parle la Bible, qu'il y a un créateur qui est quelqu'un dont la volonté a voulu faire exister un autre quelqu'un, l'homme, on l'appelle Apicoros. Ça veut dire disciple d'Épicure. Vous suivez? Et encore, Épicure, c'est pas ce que vous voyez les moines sur un camembert, là, épicurien. C'est pas ça. Okay? Et ça, c'est autre chose. Mais je veux dire, la philosophie d'Épicure, je vous en parlais d'ailleurs à propos du problème moral, et ça implique toute une morale très particulière, une morale de la jouissance, et qui n'est pas du tout une morale du devoir. Vous voyez la différence. Bien. Alors voilà, la réponse est celle-là. Comment on l'a appris? Du résultat de la création. Et là, on peut utiliser ce que vous avez dit. Le résultat de la création, c'est qu'avant la création, il y avait Dieu seul. Dans le postulat de la notion, il y avait Dieu seul. Le résultat de la création, c'est qu'il y a un monde. Ok? Et alors, nous allons prendre en postulat que c'est ça sa finalité. C'est sa finalité. Dieu a voulu créer quelqu'un d'autre que lui. Puisque le résultat, c'est que maintenant, après la création, quelqu'un d'autre que lui existe. Et nous sommes dans la cohérence du récit. Tout le monde suit, c'est pas trop vite, pas trop difficile. Et c'est là que se posait notre question. Quelqu'un d'autre que lui, c'est-à-dire? C'est-à-dire quoi? Un monde ou un homme? La réponse de la Torah, c'est un homme. Et vous voyez la valeur de l'homme. Avec beaucoup d'humour, si j'ose dire, on a d'abord un premier chapitre où l'homme est à sa place. Un tout petit verset dans un récit du monde. Okay. Après, deuxième chapitre, on voit que tout le monde n'est que la demeure de l'homme. Voilà, c'est la première idée à laquelle il faut s'habituer. Pour comprendre la cohérence du récit, c'est très important. Okay. De là vient l'optimisme juif. Mais je voudrais terminer l'analyse. L'optimisme hébreu. Nous savons un secret. Que la finalité de la création du monde, c'est l'homme. Alors, quelle que soit la difficulté, c'est secondaire par rapport à l'objet. C'est donc, c'est l'homme qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, l'achèvement, le couronnement de l'œuvre. L'homme et son histoire, c'est l'homme. C'est clair jusque-là? Puis je vous donnerai quelques ramazines, enfin quelques, comment dire, peut-être pas déjà aujourd'hui, quelques allusions dans le texte lui-même, mais je vais aborder tout de suite le sujet du cours d'aujourd'hui, alors qu'il y a une minute.
Je reprends la question que vous avez posée tout à l'heure.
Oui.
Si j'avais le choix,
quoi préférer, oui.
À ce point-là ou dans ce point-là. J'aurais eu une gêne parce que je suis déjà là-bas dans ce point-là. Donc mon aspiration est ici.
Très bien. C'est pour ça que lui avait la même gêne. Alors attention de sortir de la gêne, parce que étymologiquement, la gêne, ça veut dire enfer. Le mot s'est dit dévitalisé, mais dans l'ancien français c'est la GN qui a donné la GN. Et il a dit ça la GN. Vous voyez pas, j'ai dit. Et alors, la problématique reste, même si nous savons déjà que la tradition juive a choisi, a opté pour la réponse, l'homme. Et la problématique reste. Parce que vous aurez, c'est là que je retrouve ton analyse, vous aurez une tension permanente dans la société juive, c'est-à-dire dans la société des hachamim, ok? Que la vérité, l'homme, une tension permanente. Ça vous expliquera beaucoup de choses a priori incompréhensible des situations et des tensions de la société juive, en particulier la société religieuse. Ceux qui font passer la vérité avant l'homme et ceux qui font passer l'homme avant la vérité. Et ce que j'ai dit là est très schématique, mais vous voyez les polarités. Hein? Est-ce que tu commences le... C'est pas Copernic et Cadet, c'est plus compliqué que ça. Bon. Alors là, ça c'est fini pour la première remarque. Hein? Deuxième remarque, dans votre plan. Vous voyez, ce chaos de l'origine, dès que l'apparition à l'être éclate, tous les éléments qui feront le monde constitué sont là, mais en chaos, tellement. Hein? Et déjà, c'est un problème pour lui-même, pas aujourd'hui, mais je vous le signale en passant. Pour vous parler d'un problème de méthode, vous allez faire l'effort de vous déshabituer de la familiarité de tous ces textes que vous avez lus d'une manière ou d'une autre jusqu'à présent. Parce qu'il y a une telle familiarité avec ces notions, vous croyez que ça va de soi, rien ne va de soi. C'est vrai ? Mais vous allez faire un peu comme disait Descartes, du point de vue de la méthode de la réflexion philosophique, table rase. En réalité, on ne peut pas annuler la mémoire. Il faut la suspendre. Jusqu'à ce que vous puissiez trier ce qui est évidemment certain. Je vais essayer de décrire ça un peu sous forme de blague, pour que vous voyez le choc que ça représente. On a lu pendant 3000 ans la Bible. Et on n'a jamais eu encore l'idée de s'étonner. Voilà, il faut s'étonner depuis le début. Regardez ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on nous raconte gravement ? Au commencement, Dieu a fait le ciel et la terre était chaos. Alors ça, c'est parce que c'est Dieu qui a créé le monde que la terre était chaos. Si ce n'était pas Dieu, voire les nains, on en fait. Est-ce que vous comprenez ? Je veux dire, non, j'ai pas rien dit, c'est pas grave. Est-ce que vous comprenez ça ? On ne s'étonne pas qu'on nous dit quelque chose d'absurde. Est-ce que c'est clair ? Comment c'est Dieu qui crée le monde et le résultat, c'est que c'est un chaos ? Ok, on passe. Il ne faut pas passer. Alors qu'est-ce qui se passe ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Quand il faut s'étonner. Rien n'est évident. Est-ce que c'est clair jusque-là ? Donc ça veut dire qu'on n'a pas compris. Si on a cru comprendre d'après nos normes de familiarité, on n'a rien compris. Parce que c'est pas du tout évident. Quand Dieu crée quelque chose, c'est du chaos. Vous voyez à quel point la familiarité est nocive pour la vie de l'esprit. Est-ce que c'est clair ? L'habitude, l'inertie. Hein ? Et j'ai vu combien de lecteurs de la Bible qui sont des lecteurs pieux, on n'a pas de leur reprocher, et qui disent gravement un texte absurde et qui disent amen. Ils ne savent pas où on les amène, mais avec son amen. Non, c'est intentionnellement, j'ai un peu brutalisé le sujet, mais vous comprenez, ça ne veut rien dire. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et on continue tranquillement, et la terre était chaos. Nam yasidi, on marche. Méfiez-vous de ça. Il faut vous étonner de tout. Ça vous rendrait un peu de champagne Perrier, là, dans les. Comment on appelle ça ? Process. Pétillant. Okay. Sinon, on s'endort. Vous voyez, c'est clair ? Bon. Et alors, on nous a l'histoire de ça, je ne vais pas vous parler aujourd'hui, je voulais vous signaler en passant. Le point de départ, c'est ce pêle-mêle des éléments du monde, l'histoire d'une organisation. Finalement, nous avons su, d'après le premier principe, qu'il fallait une maison pour l'homme. Okay? Il fallait une demeure pour l'homme. Et c'est pourquoi on va d'abord construire la maison, mais c'est une préhistoire. L'histoire vraiment commence que l'homme est là, à la fin du sixième jour. Okay? C'est clair ? Vous voyez pourquoi c'est six jours ? C'est un peu une préhistoire. Et donc, on a suivi un certain nombre de rites, ils sont six, on verra pourquoi, mais c'est pas important aujourd'hui, de préparation de cette maison que l'homme va habiter. Alors, je vais vous dire dans une formule simple, c'est ces six jours du commencement, le récit que nous en avons, c'est la construction de la demeure de l'homme. Et quand la demeure est suffisamment préparée pour être habitable par l'homme, l'homme arrive dans le monde, est créé dans le monde, et le septième jour commence. On appelle Shabbat. De Dieu. Ça a été clair ? En tant que créateur. Tout ça, on apprendra plus en détail dans le prochain. Alors, je reprends l'analyse. Tout se passe comme si nous avons là l'accomplissement d'un projet qui est la demeure de l'homme. Ça va jusque-là ? Et dès que cette demeure est suffisamment habitable, une maison et un jardin, l'homme apparaît. Et l'histoire commence. Ça, l'histoire commence, elle commence au deuxième chapitre. Il y a une question que je signale avant d'aller plus loin, on va se demander pourquoi un univers aussi énorme, infini, hein? S'il s'agissait du système solaire à la rigueur, et on se demande qu'est-ce que Vénus vient faire là-dedans, bon, ça a un rôle, Mercure, Jupiter, la planète, ça aurait suffi. Mais pourquoi c'est un rôle immensité et infinité. On va apprendre par postulat que tout cela est nécessaire pour que l'homme fonctionne. Postulat. Okay? Puisqu'il en est ainsi, c'est que c'est ainsi qu'il en est. Okay? C'est clair? Bon, donc je referme cette question-là. Elle ne va pas nous intéresser pour le moment, on la reprendra plus tard. Mais voilà ce que nous dit le récit de la vie. Il fallait une demeure pour l'homme que je suis, et alors cette demeure a été agencée, et lorsqu'elle est suffisamment préparée, un jardin et une maison, vous connaissez le quartier de Jérusalem qui s'appelle Baït Vagal. Baït Vagal, c'est ça le monde, okay? Alors l'homme apparaît et l'histoire commence. Tout ça, c'est les six jours du commencement. Ça va jusque-là? Top. Vous avez appris deux mots, Baït Vagal. V, Vag, et. Un Baït, une maison, un Gan, un jardin. Et vous verrez d'ailleurs que tout ce récit commence par le mot de Baït, et ça rime, ça s'arrête au mot de Gan. Alors, une petite récréation en hébreu, ça vous mettez vraiment dans la troisième phase. Et après, on abordera le cours, s'il me reste un quart d'heure. D'accord. Voilà, mais le premier mot de Bereshit, c'est le mot de roche. Roche, qui veut dire commencement, début, tête. Okay? Ce mot-là, vous connaissez. Et puis, il est modifié par des désinences. B, qui veut dire « au », et « réchit », c'est l'adverbe « au commencement », dans l'instant du commencement. Alors, vous voyez, « roche » modifié par « bet yud tav ». Oui. Alors, on peut le lire autrement. Mais ça, c'est une récréation, hein. Attends, ne mélangez pas. Vous voyez, au début, il y a « baït ». Baït, ça veut dire « la maison ». C'est « roche baït », le commencement de l'histoire de la maison. Et à la fin, on dira « Ashrei Yoshevei Betecha », heureux ceux qui habitent dans ta maison. Vous voyez comment ça se fait. Et à la fin, c'est le Gan, qui est le jardin. Bon, je l'indique comme ça. Gan. Alors, le mot de Gan, et c'est les initiales de deux mots hébreux, je vais l'apprendre encore. Gouf, ça veut dire le corps, et nous, alors, le Gan, c'est l'homme. Et ça commence avec le Baït, et ça finit au jardin de l'homme. C'est clair? Bon, ça c'est un petit dessert. Simplement pour mettre en évidence le fait que l'ordonnance du récit que nous allons suivre, c'est ça. On va construire la maison, et quand la maison est préparée, l'homme apparaît. Baï, Vagan. Vous rappelez de ça, je pense. Alors on aborde maintenant le sujet du cours à proprement parler, et qui est la structure de l'histoire qui est racontée dans ces six jours. Et là va apparaître un plan qui sera le même pour l'œuvre de chacun des jours. Que je vais vous mettre en évidence, on va prendre un exemple, et que vous retrouverez dans tous les récits postérieurs. Quel est ce plan? Alors on va le prendre pour le premier jour. Premier jour de l'œuvre, là où c'est le plus simple. Et puis, vous reprendrez toutes ces notes, vous refamiliariserez avec le premier chapitre, et déjà mardi prochain, on pourra peut-être achever ce sujet-là. C'est-à-dire, on voit qu'il y a une ordonnance des différentes propositions qui nous racontent cet agencement du monde en tant que demeure de l'homme. Alors, je vais tout de suite à l'essentiel, et vous verrez pourquoi c'est important. Parce qu'on va en tirer un certain nombre de leçons, un certain nombre de principes de la structure de l'histoire. Il y a une finalité dans l'histoire. Comment ça fonctionne? Il y a donc un certain but. Le Créateur a voulu qu'un être autre que lui existe. Et vous verrez qu'il y a là, il faut dépasser une impossibilité absolue. Parce que par définition, un être autre que Dieu n'a pas de place pour exister. Si Dieu est l'être, vous suivez, où mettre un être autre que lui? Vous voyez quelle impossibilité va falloir dépasser. C'est clair? Et vous prenez donc l'œuvre du premier jour à partir du troisième verset. Vous allez suivre avec moi ces versets. Je vous les lis simultanément en hébreu et en français. Alors, chaque fois que vous avez à corriger une traduction que vous avez dans vos livres, vous corrigez la dans vos notes, okay. Corriger, c'est peut-être pas le mot, mais enfin, préciser. Okay. Et puis, très rapidement, nous allons faire apparaître le plan qu'il y a dans ce premier exemple qui est le premier jour. Mais familiarisez-vous jusqu'à mardi avec le récit des autres jours, vous verrez qu'il y a des petites modifications que je vous demande de deviner par vous-même. Mais la structure de base du plan reste toujours la même. Alors, je lis. Donc, dans les deux premiers versets, on nous dit quel est l'état du monde au commencement. Et puis, l'état du monde au commencement, c'est chaos et obscurité. Alors, voyons mes Elohim, et Dieu dit, Yehi Or, qu'il y ait lumière. Je traduis strictement. Okay? Je pense que dans vos livres, on traduit que la lumière soit. Il n'y a pas la lumière. La lumière, ça se dirait Haor. Il a écrit qu'il y ait lumière. Je dirais même plus, qu'il y ait de la lumière. Yehi Or. Premier point. Alors, ce premier point, c'est la formulation de ce que je vous appellerai le projet du Créateur pour cette étape. Voilà le projet. Yehi Or. Alors, toujours, chaque fois qu'on est à une étape de l'histoire, le projet est formulé tout de suite. Vous suivez le déroulement de ce plan? Okay. Il y a quelque chose à accomplir. Alors, nous dites d'abord quel est le projet. Ce projet ne sera accompli qu'en fin de compte. Mais tout de suite, cela nous est révélé. Voilà le projet de l'étape en question. Ici, on est tout début. Okay. Yehi Or, qu'il y ait lumière. Fin du verset, Yehi Or, et il y eut lumière. Et là, c'est le récit de ce qui a été effectué. Deuxième point. Premier point, formulation du projet. Deuxième point, récit de ce qui s'est passé dans la réalité. C'est clair jusque-là? Apparemment, on pourrait se dire que puisque c'est Dieu qui décide, ce qui va se passer dans la réalité, ça sera la même chose que dans le projet. Ben, c'est pas évident. Vous y êtes? Et ça, vous aurez à le déceler dans les autres jours. Ici, il y a un cas particulier. Qu'il y ait de la lumière, c'est de la lumière qu'il y a eu. Est-ce que c'est vraiment la lumière que Dieu voulait? C'est un autre problème. Enfin, c'est lumière. Vous y êtes? Bon. Vous voyez le monde de questions qui vont apparaître. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que le monde pourrait faire autre chose que Dieu veut? Ben, c'est ça qu'il faut découvrir. Vous savez, il y a un décalage. Toujours entre la vérité et la réalité. Ça, nous le savons par l'expérience. Alors, le récit, non seulement tient compte de cela, mais nous le dit dès le début. Et il faudra comprendre pourquoi il y a décalage entre la réalité et la vérité. Est-ce que c'est clair? Regardez bien cela en détail. Okay? Alors, dans le projet, il y a une lumière en projet. Dans la réalité, il y a une lumière en réalité. Est-ce que c'est la même? C'est notre problème. En tout cas, lumière, c'est lumière. Dans le texte, c'est le même mot. Oh, oh. Okay? Alors, nous avons déjà deux points. Le projet, l'intuition de ce qui doit devenir, et ensuite l'effort de l'histoire qui le fait devenir. Alors, dans le récit, nous avons d'abord la formulation du projet, et ensuite la formulation de ce qu'il y a eu dans la réalité. Ici, ça semble être coïncident, mais c'est pas tellement évident que ça, vous verrez par la suite. Alors, vous avez donc une question sur laquelle vous allez réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire que le monde peut, non pas désobéir, c'est peut-être pas le mot, mais pas coïncider avec le projet du Créateur? Alors, hein, on commence déjà à voir que ce Créateur laisse sa créature libre. Et vous voyez dans quelle mentalité on est tout de suite situé. On n'est pas du tout situé dans la mentalité du Dieu, comment dire, des murs. Non, c'est un mot trop compliqué pour le moment. Non, transcendant, il est transcendant, c'est pas le problème, mais je veux dire, du Dieu gendarme. Si tu n'as pas fait exactement ce que je te dis, oh, il va voir. On voit bien que c'est pas comme ça. Vous suivez, dès le début, on est averti. Il y a un projet qui est lancé à la matière du monde, devient lumière. Bon. Et ensuite, vous verrez les autres projets dans les autres choses. C'est clair?
Parce que ça apparaît beaucoup plus vite, ce décalage.
Si ça apparaît en hébreu, vous ne pouvez pas le voir. Vaïi, c'est la différence d'Aïi. Ça apparaît aujourd'hui. C'est un peu trop compliqué. Toutes ces questions d'érudition supérieure, vous les laissez pour après. Okay? Ça apparaît déjà, mais vous ne pouvez pas le voir encore. C'est pourquoi je vous l'annonce dans les tickets. Premièrement, c'est le verset 4, Vayar Elohim. Et d'Aor Kito. Littéralement, on traduit, habituellement, je veux dire, on traduit, et Dieu vit que la lumière était bonne. Pourquoi il ne savait pas? Vous voyez que ce n'est pas évident. Ah bon? Vous suivez? Bon. Plus exactement, en français, en hébreu, le mot qu'on traduit par voir, et qui signifie voir, signifie aussi approuver, considérer que, approuver, il y a un jugement. On pourrait traduire et Dieu approuva la lumière parce qu'elle était bonne, qui la confirme dans l'être. Vous suivez? Jugement. Le troisième bilan, c'est le jugement. Vayavzel Elohim ben Ahor ben Achosher. Et maintenant, Vayavzel Elohim ben Ahor ben Achosher, et Dieu sépara entre la lumière et l'obscurité. Alors, ça, c'est le bilan. Mais qu'est-ce que nous a raconté? Le monde était obscurité. Dieu dit qu'il y ait lumière, il y a eu lumière. Dieu approuve la lumière, la confirme parce qu'elle est bonne, et j'ai changé la traduction. Hein. Et alors, il sépare la lumière et l'obscurité. Parce que si la lumière et l'obscurité restaient mélangées, il n'y aurait ni lumière ni obscurité. Okay. Alors il y a et obscurité et lumière. Tout ça, il faut qu'on découvre pourquoi on a besoin de tout ça. Alors oui, ce que je suis, c'est la structure. Premièrement, projet. Deuxièmement, accomplissement. Effectuation. Parce que quand je dis accomplissement, ça veut dire que c'est complètement achevé. Okay. Effectuation du projet, récit de l'histoire. Troisièmement, jugement. Quatrièmement, bilan. Vaikra Elohim laor yom, velachosher kara laila. Et Dieu nomma la lumière jour et l'obscurité nuit. Qu'est-ce que ça nous apprend? On a été en hébreu, il faut nuancer un peu. Et Dieu destina la lumière au jour, ikro. Nommer quelqu'un, ça veut dire lui donner un programme, lui donner une destination. Vous avez un enfant, vous l'appelez David, ça veut dire. Tu seras David. Sinon, pourquoi vous l'appelez comme ça? En hébreu, c'est un terme très voile. Micro, à la fée. Okay. Nommer quelqu'un, c'est lui donner une destinée. Mais pourquoi il faut se méfier quand on nomme les enfants? Il y a toute une science qui s'est perdue. Okay. Pour ça, je vous parlerai assez abondamment pendant l'année. Alors, quand vous allez choisir votre prénom, avec beaucoup de précautions. Hein? Quand on l'a déjà, on fait tout ce qu'il faut pour faire vrai. Il y a un midrash qui dit au jugement dernier, on ne vous demandera pas pourquoi tu n'as pas été Moïse. On vous demandera pourquoi tu n'as pas été toi. Et toi, c'est quoi? C'est le nom du port. Méfiez-vous quand on a plus. Je veux dire, il y a des noms difficiles à porter. Vous savez? Bon, alors rassurez-vous, toute cette rampe-main s'est perdue. Alors, ce qui fait que. Oui, rassurez-vous, ce qui fait qu'on n'est pas responsable, tellement. Mais il faut quand même se méfier, parce que peut-être elle n'est pas complètement perdue. Je vous donne un exemple. J'étais toujours frappé par cette espèce d'arbitraire qu'il y a dans la culture contemporaine quand on nomme les choses et les gens. Par exemple, quand je vais à Paris, je vois un café qui s'appelle le Café de la Paix. Quel rapport entre ce café et la paix? Hôtel d'Angleterre, Maïs, école Maïmonide. Qu'est-ce qu'il y aura fait Maïmonide? C'est ce que je veux dire. On croit lui rendre hommage. Et je n'ai rien contre l'école Maïmonide. Enfin, Maïmonide. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Vous voyez qu'elle a tout un problème.
C'est bien d'avoir un grand référent.
C'est bien d'avoir. Mais il faut être à la hauteur. Sinon, de qui on se moque?
On le fait pas de Torah, parce que ce sont les grands référents.
Qu'est-ce que tu en sais? Et l'école Maïmonide, c'est l'école où Maïmonide enseigne. Et d'abord, je te répète, qu'est-ce que tu en sais? Il est peut-être pas content. Peut-être qu'il est content, je ne sais rien. Mais enfin, je te dis, il y a un problème. Okay. Et bien sûr qu'on se ridicule. Mais on porte la tête à des valeurs qu'on manie avec un arbitraire énorme. Bon, l'hôtel d'Angleterre, je m'en fous. Mais l'école Maïmonide, quand même, il faut réfléchir. Centre Rachid. Non, mais dis ça sérieusement, moi j'étais contre. À la rigueur, quand on l'appelait le centre Broca, j'étais à l'aise. Enfin, c'est la rue qui s'appelle Broca. C'est un peu un Broca d'Abraham, en fait. Et centre Rachid, il faut être à la hauteur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Pas du tout, ça va pas. Vous savez qui c'est Rachid? Il faut regarder là-haut. Et là-haut, Rachid dit. Alors, on revient au problème.
La notion du bilan, le quatrième.
Oui.
La notion du bilan, je
j'explique.
Concrètement, ça a été, mais.
C'est que l'obscurité, la lumière vont avoir un rôle. Et le rôle de la lumière, c'est dans le jour, et le rôle de l'obscurité, dans la nuit. Ça ne nous dit rien encore, mais je vous donne la structure formelle.
Mais
tout sur
l'obscurité, parce qu'on
n'en parle pas. Elle est à l'origine. Bon, on t'en parle au verset 2. Va arrêter, ça est à tout, va vous, mais au verset 2. Et on ne sait pas encore qu'est-ce que l'obscurité, qu'est-ce que la lumière. Mais pour le moment, nous analysons le plan formel. Okay, je voudrais dire le dernier point, vous ayez votre ensemble, et après on verra. Vaïaël, vaïboker, yomer. Et ce fut soir, ce fut matin, jour 1, à un rythme de l'ordre du temps. Ça va ? Alors vous allez avoir ce plan comme structure de base de tous les récits de la prophétie biblique. Un projet. Qu'est-ce qui s'est passé dans la réalisation du projet ? Quel est le bilan ? Et nous verrons toujours qu'il y a un déchet de décalage entre le projet et la réalisation. Et que ce déchet traverse le temps. Je vous donner peut-être une formule très générale qui vous aidera un peu plus à vivre. C'est une expérience qu'on a un peu à votre âge, un peu avant, de l'adolescence. C'est qu'on entre dans un monde déjà commencé, il y a longtemps, et où il y a des déchets d'échecs antérieurs. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire ? C'est d'abord le problème de l'insertion dans sa propre famille. Et c'est le problème de l'insertion dans sa société, dans l'humanité, dans le monde. C'est-à-dire qu'on va découvrir que nous entrons chaque fois dans un monde qui a un passé. Et qu'il faut d'abord assumer ce passé. Tant qu'on ne l'a pas assumé, on ne peut pas voir la suite. On ne peut pas embrayer dans la suite. Là, il y a un problème de vie spirituelle concrète qui est très important, dont je vous parlais dans notre cours, mais je vous signale. Si on n'a pas d'abord assumé tout ce qu'il y a eu dans l'histoire avant moi, avant chacun, on ne peut pas continuer. On est handicapé, bloqué. Alors, il faut d'abord évacuer, pas évacuer, élucider cela. Est-ce que c'est clair ? C'est-à-dire, un peu le sentiment que l'adolescent a quand il ouvre les yeux dans son histoire, « Ah, si le monde avait commencé avec moi, vous auriez vu comment il était beau. » Tout le monde a dit ça depuis le premier homme. Okay, faut pas se tromper. Ça serait la même chose. On fait une espèce de réaction où on se connaît comme le héros qui va sauver le monde, et puis très vite on se dit « Ah, si ça avait commencé avec moi. » Et puis on se révolte contre tout ce qu'il y a eu avant. Parce que je ne suis pas responsable de toutes ces scories dont j'hérite au moment où je rentre dans l'histoire. Tant qu'on est dans cette révolte, on ne peut pas démarrer. Donc c'est une expérience importante. Je cherche le mot en français, ça veut dire barrer, il faut épurer cela. Okay. Je vais vous donner un signe. Le jour où on se sent bien dans sa peau, là on peut commencer. Et je dis les choses concrètement. Okay. Parce qu'en fin de compte, on hérite d'un corps qu'on n'a peut-être pas voulu. Et ça commence là, ma relation au monde, c'est mon corps d'abord. Okay. Alors, tant qu'on ne se sent pas bien dans sa peau, on ne peut pas démarrer dans la suite. Alors, on a tout un an pour arriver à comprendre qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à moi. Nous, Israël, de maintenant, de 1981, qu'est-ce qui s'est passé jusque-là ? Peut-être sorte de savoir si ça vaut la peine de prendre ça sur les épaules ou pas. Mais il faut d'abord découvrir ça. Qu'on entre dans un monde où il y a encore du chaos. Parce que ce n'est pas fini, ce chaos. Vous savez, le Beit Vagan en question, c'était grosso modo, hein, des trifiles, comment on dit ça, des provisoires, hein, des baraques. Hein, le Bétamiglage, c'est pas encore là. Le Bétamiglage, c'est quand même pas le Bétamiglage. Et il y a encore du chaos. Et puis il y a surtout des poubelles du passé. Est-ce que c'est clair ? Alors, vous voyez ce qu'on découvre là, dans la structure de ce geste. Alors, je reprends brièvement. Et je crois qu'on pourrait dire que la piété, dans le sens grec, dans le sens étymologique, commence par le fait d'accepter son monde. Après, c'est là que ça commence. Après, ça commence. Mais le premier acte de piété, c'est d'abord accepter. Accepter, c'est un mot négatif. Je dirais peut-être, c'est un mot chrétien, mais on doit quand même assumer. Okay. Et je ne sais pas pourquoi il faut que je sois d'accord, mais enfin, il y a sûrement une raison. Mais je ne peux pas démarrer tant que je ne suis pas d'accord que moi, c'est moi. En tout cas, le monde, lui, il doit avoir raison. Moi, je ne l'ai pas encore, mais lui, il y a dans ce monde quelque part. Est-ce que c'est clair ? Alors, d'abord, coïncider avec ça. Je. Et après, je commence. Mais tant qu'il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de commence. Ça y est, c'est clair ? Faut d'abord faire ça. Ça vous explique que le premier problème difficile, c'est la relation aux parents. Parce que s'accepter, ça veut dire s'accepter comme l'enfant de ses parents. et le petit-fils de son grand-père est jusqu'au premier rang. Est-ce que vous voyez pourquoi c'est important, hein, de percevoir qu'il y a eu un passé. Il y a eu des tentatives du passé, et j'hérite du monde à un certain stade de ces tentatives, mais c'est plein de scories. Et ça, c'est une vertu gratuite. Hein. Il n'y a pas de raison que j'accepte, il n'y a pas de raison que je ne passe pas moi d'ici. Vous comprenez quand je dis gratuit ? C'est un héroïne de vertu. Où je veux, où je veux. Hein. Alors je veux. On va inverser comme ça. Ou bien je veux pas. Mais alors je sais que je veux pas. Mais il faut savoir de quoi il s'agit. Il s'agit des approximations qui se sont accumulées. Et le premier moment de révolte, nous verrons cela au temps d'Abraham. Et à partir d'Abraham, nous voyons une espèce de bifurcation. L'homme, c'est de deux manières. Ou bien Abraham, qui enchaîne, ou bien Nimrod, qui se révolte. Vous avez entendu parler de Nimrod, hein? Ça, nous aurons une analyse beaucoup plus tard. Et que ça veut dire Nimrod en hébreu? L'homme révolté. Vous avez lu Camus. L'homme révolté. J'aurais pu l'appeler Nimrod. En hébreu, Nimrod, ça veut dire l'homme révolté. Meret, Nimrod, la révolte. Et la révolte contre quoi? Ben, contre l'état du monde, tout simplement. Ah, si on avait eu un monde au commencement. Oui, mais je vous ai parlé de ça tout à l'heure. Eh bien, ça veut dire la même chose. Est-ce que c'est clair?
Alors ça veut dire qu'on peut changer ?
Bien sûr qu'on peut changer. On peut changer que ce qui existe. Et pour changer ce qui existe, il faut d'abord la suivre. Non, mais je vous dis, la tradition enseigne ça de façon très importante. Il y a un héroïsme de vertu dans cette assomption. Assomption, c'est le substantif de la suivre. Okay, c'est le commencement de la vertu de piété. Et au fond, comme on dit, il faut être aidé. Et on est aidé, et on sera aidé. Parce que c'est très difficile. Qu'est-ce que c'est? Je rentre dans un monde détraqué et on me demande de prendre ça en charge. C'est pas moi qui ai détraqué, d'abord qu'est-ce que tu en sais? C'est notre problème. Est-ce que tu te rappelles de ce qui s'est passé avant ta naissance? Tu te rappelles pas? Personne ne se rappelle du moment de sa naissance. Moi je sais que je suis né parce qu'on m'a dit. J'étais pas là. Enfin j'étais là, mais je ne me rappelle pas. La seule personne au monde dont je ne suis pas sûr qu'elle soit née, c'est moi. On m'a dit. Je crois, puisque je vois les autres. Est-ce que vous affolez pas? J'ai vu mes enfants naître, alors je me dis, c'est peut-être comme ça que je suis né aussi, mais je ne sais pas. Je n'ai pas de preuve personnelle. Est-ce que vous comprenez? Je parle pour tout le monde. Vous affolez pas, vous êtes né d'une femme. Ça, moi aussi d'ailleurs. Mais pour vous faire comprendre que rien ne va de soi, est-ce que c'est clair? Qui se rappelle de son commencement? Personne. On se rappelle du premier souvenir de l'enfance. Et si on a de la chance, c'est avant l'âge de 3 ans. Ben, si on se rappelle pas ce qu'il y a eu avant l'âge de 3 ans, ça manque. Bon. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous avez fait un peu de psychologie. Vous voyez un peu de quoi il s'agit. Parce que toute la personnalité se forme dans ses 3 premières années. Bien. Après, on peut que mettre des emplâtres, que arranger un peu des coups de pouce. Mais l'essentiel d'une personnalité se forme, par définition, quand elle était encore alité, c'est la personnalité. Jusqu'à l'âge de 3 ans. Mais il est évident que personne ne se souvient du commencement dans le sens strict. Et pourquoi la notion de commencement ne fait pas partie de la pensée humaine? Bon, vous n'appelez pas, je vous dis ça pour vous faire comprendre la question se pose. On referme la parenthèse. On nous apprend que cette vertu est une vertu difficile, héroïque, mais que c'est par là que ça commence. C'est pourquoi, sinon on n'aurait pas eu besoin, que la révélation de la loi et une tellement longue préface de l'histoire depuis le début. C'est qu'il faut qu'on sache dans quel monde on rentre avec cette loi-là à accomplir, à réussir, ou à essayer. Est-ce que c'est clair? Vous voyez pourquoi c'est des historiques? C'est dans la Torah, et pas dans n'importe quel livre historique de la vie où ça aurait pu être, mais dans le livre de la Torah même. Et d'abord savoir qui je suis, ben on va me raconter qui je suis. À un certain moment, le nom de l'homme, qui que texte, et c'est moi. Et c'est toi, et c'est... Vous suivez? Bon. Alors, voilà donc les différents points. Et nous aurons... Bon, c'est déjà l'heure. Alors, mardi, nous nous posons la question, quel est le projet pour le septième jour? C'est-à-dire le jour où commence l'histoire de l'homme. C'est pourquoi on avait besoin des 3 versets que je vous ai fait étudier. C'est clair? Bon. Alors, demain après-midi, vous ramènerez le livre de Bréchy. Et on commence ça comme première notion, la notion de création, pour l'étudier pour elle-même. Ça va? Voilà. Alors, vous allez descendre le projet, et ensuite vous êtes complètement libre, tout l'après-midi à la forêt, comme vous savez. Si vous voulez dormir, vous allez dormir. Je vous signale que j'ai un cours d'ancien cet après-midi, de 6h à 7h30, donc le dîner sera un peu décalé. Okay? Et j'aimerais bien que quelques-uns puissent donner après dîner un coup de main à Amanda pour ranger la salle en bas pour tout ce soir. Non, le cours d'ancien, vous m'en avez dit.